On retrouve les informations avec vous, donc Stanislas Vazak, bonsoir.
Bonsoir à tous. L'Europe met à l'amende Google, plus de 4 milliards d'euros pour abus de position dominante sur les smartphones utilisant le système Android. Les explications de Catherine Pétillon dans un instant. Un bilan contrasté pour la lutte contre le sida. Le nombre de décès diminue globalement, mais il augmente chez les jeunes en raison notamment d'un relâchement dans la prévention. Nous ferons le point avec Clotilde Ravel. En France, le projet de loi sur la PMA sera présenté avant la fin de l'année, affirme le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. L'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes est une promesse du candidat Macron, un dossier suivi par Stéphane Robert. Il n'y a pas eu de défaillance de l'État dans la gestion de l'attentat du Bataclan. Le tribunal administratif de Paris a rejeté aujourd'hui le recours de plusieurs victimes des attentats du 13 novembre 2015. L'analyse de Florence Turm dans cette édition. L'Union européenne a donc fait preuve d'une sévérité inédite à l'encontre d'un géant mondial du numérique. La Commission de Bruxelles inflige à Google une amende record de 4,34 milliards d'euros. Google puni pour abus de position dominante dans les smartphones qui utilisent Android, son système d'exploitation. Le géant américain en profiterait pour imposer son moteur de recherche. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
L'amende infligée à Google n'est qu'un aspect d'une décision plus large rendue aujourd'hui par la Commission européenne.
Oui, cette décision dit trois choses. D'abord, que Google abuse de sa position dominante. D'un point de vue juridique, c'est important car cela pourrait servir de fondement pour attaquer Google. Ensuite, elle donne à l'entreprise 90 jours pour changer ses pratiques, sous peine d'astreinte à payer. Et enfin, elle dit que Google doit s'acquitter d'une amende. Le montant est, vous le disiez, inédit, presque deux fois plus que sa première amende pour abus de position dominante en 2017. Cela concernait alors son comparateur de prix Google Shopping. Cette fois encore, l'amende a été déterminée au regard de l'importance du marché concerné et des enjeux économique. Google a une position dominante. 80% des téléphones fabriqués sont équipés de son système d'exploitation Android. Ce que la Commission européenne lui reproche, c'est d'abuser de cette position pour se ménager la part du lion dans le secteur de la recherche sur Internet en général, notamment en incitant les fabricants à installer par défaut l'outil Google Search. Or, c'est un produit phare avec lequel Google génère chaque année plus de 95 milliards de dollars de revenus. Mais c'est surtout pour la commissaire européenne à la concurrence Margrethe Vestager, une entrée au développement d'applications concurrentes. Aujourd'hui, la décision de la Commission a rejeté le modèle économique qui fait vivre Android, a réagi de son côté le PDG de Google, estimant par ailleurs qu'Android avait créé, je cite, « plus de choix pour les utilisateurs, pas moins ». Ce que réfute l'entreprise, ce ne sont pas les pratiques commerciales mises en avant par la Commission, mais leur impact sur l'environnement concurrentiel, et c'est avec ces arguments qu'elle va faire appel. En attendant, Google a néanmoins l'obligation de mettre en œuvre la décision européenne dans les tout prochains.
Catherine Pétillon, merci. Et c'est dans ce contexte tendu entre l'Union européenne et les États-Unis que le président de la Commission de Bruxelles sera à Washington la semaine prochaine. Jean-Claude Juncker devrait notamment rencontrer le président américain Donald Trump. Le dernier rapport d'ONU-SIDA fait état d'un bilan paradoxal. D'un côté, la proportion de séropositifs qui ont accès au traitement n'a jamais été aussi élevée, près de 60%, soit environ 22 millions de personnes, et le nombre de décès liés au VIH est en baisse, moins d'un million de morts en 2017. De l'autre, le SIDA frappe de plus en plus les jeunes, la faute notamment à une prévention trop tardive. Clotilde Ravel.
Le sida, deuxième cause de mortalité chez les 10-19 ans dans le monde après les accidents de la route, est la première sur le continent africain. Constat critique du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé.
Nous atteignons ces jeunes filles ou ces jeunes garçons avec des informations lorsque ces jeunes filles ont déjà une sexualité avancée, lorsque ces jeunes garçons sont déjà infectés et nous devons travailler beaucoup plus tôt. Nous avons une sexualité très précoce un peu partout. Et donc, quand les jeunes filles ne sont pas préparées ou les garçons, ils n'ont pas les compétences, ils ne se protègent pas.
L'ONU-SIDA veut par exemple inciter les États concernés à s'emparer de l'éducation sexuelle des jeunes, mais aussi de la question des mariages forcés et des violences sexuelles envers les jeunes filles. Leur éducation est un élément clé dans la lutte contre la pandémie.
Nous avons constaté que chaque fois qu'on investit dans l'éducation de la jeune fille, pour aider une jeune fille à rester à l'école, nous constatons une baisse de l'infection dans ces communautés-là d'au moins 66%.
Objectif de l'organisation, mettre fin à l'épidémie comme menace à la santé publique d'ici 2030.
2030, c'est possible si on a le support financier, si on continue à mettre l'accent sur la recherche pour qu'il n'y ait personne qui soit laissé pour compte. Et ça, c'est possible.
L'organisation estime qu'il lui manque actuellement 7 milliards de dollars par an pour atteindre ses objectifs.
Clotilde Ravel et la 22e conférence internationale sur le sida est prévue la semaine prochaine à Amsterdam du 23 au 27 juillet. Une page se tourne en Turquie. Le régime Erdogan lève ce soir à minuit l'état d'urgence en vigueur depuis le putsch raté de juillet 2016. Fort de sa réélection triomphale le mois dernier, le président Recep Tayyip Erdogan entend ainsi rassurer la communauté internationale. La Turquie n'est pas une dictature. L'état de droit finit toujours par s'imposer. En réalité, Anne Andloer, le régime turc s'est doté d'une législation antiterroriste qui ressemble fort à un nouvel état d'urgence.
La levée de l'état d'urgence, c'était une promesse de fin de campagne de Recep Tayyip Erdogan. Une promesse faite à contre-cœur pour imiter ses opposants dans la course à la présidence et pour rassurer les marchés. Ceci dit, grâce au nouveau régime entré en vigueur récemment, le chef de l'état turc n'a plus vraiment besoin de l'état d'urgence pour diriger le pays d'une main de fer. D'abord, il peut désormais émettre des décrets présidentiels qui n'ont rien à envier aux décrets-lois d'état d'urgence. Mais surtout, le parti au pouvoir vient de présenter au Parlement des mesures de renforcement de la loi antiterroriste. La durée maximale de garde à vue sera désormais de 12 jours, c'est-à-dire presque autant que sous l'état d'urgence, et 7 jours de plus qu'avant le coup d'état manqué. Les préfets pourront restreindre les déplacements de personnes jugées à risque pour l'ordre public ou la sécurité. Quant aux fonctionnaires, ils ne pourront certes plus être limogés par milliers sur simple décret-loi, mais pendant les 3 prochaines années, chaque ministre pourra licencier sans autre forme de procès les employés jugés suspects au sein de son ministère. Enfin, Recep Tayyip Erdogan a fait savoir qu'il pourrait rétablir l'état d'urgence dès qu'il l'estimera nécessaire, et la nouvelle constitution lui donne une très large compétence dans ce domaine. Avec toutes ces nouvelles mesures, le régime d'exception devient en quelque sorte le régime de droit commun.
Anne Andloer, correspondante de France Culture à Istanbul. C'est l'une des principales réformes sociétales promises par le candidat Macron. Le projet de loi sur la procréation médicalement assistée sera présenté avant la fin de l'année pour être examiné au Parlement début 2019. Précision apportée aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir, Stanislas.
Le candidat Macron avait promis d'ouvrir la PMA aux couples de femmes et au sein de la majorité, plusieurs élus LaREM favorables à cette ouverture commencent à s'impatienter. Une proposition de loi sera même déposée demain.
Oui, une proposition de loi du député La République En Marche des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche. Elle prévoit d'autoriser la PMA, la procréation médicalement assistée, pour toutes les femmes, les célibataires et les femmes qui vivent en couple. Elle ne prévoit pas d'autoriser la GPA, la grossesse pour autrui, mais quand même de reconnaître le lien de filiation pour les couples qui ont eu un enfant en ayant recours à la GPA dans un pays étranger. L'objectif de ce député est, dit-il, d'accélérer le calendrier pour faire inscrire ce projet de loi le plus vite possible à l'agenda des députés. Mais le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a émis une fin non-recevoir à cette initiative ce matin à l'issue du Conseil des ministres.
La PMA fait partie de l'ensemble des sujets qui ont été traités dans le cadre des états généraux de la bioéthique. Et donc, nous bâtirons notre calendrier à partir des états généraux qui sont rendus mi-septembre. Nous n'avons pas varié sur ce sujet. Je comprends l'empressement, mais nous souhaitons pouvoir le faire de la manière la plus sérieuse et en cohérence avec les autres sujets bioéthiques qui sont traités dans le cadre des états généraux et ne pas l'isoler des autres sujets qui sont traités dans le cadre de ces états généraux. Il n'y a donc pas de début de commencement d'un mollissement du gouvernement sur cette question. Simplement, on fait les choses dans l'ordre. Je comprends l'empressement, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Pas d'accélération du calendrier. Donc la PMA, ce sera dans le cadre des lois sur la bioéthique en Conseil des ministres au mois de novembre et en débat à l'Assemblée nationale en 2019. L'exécutif sait que l'affaire est extrêmement sensible et que ces questions vont réveiller les réseaux de la Manif pour tous. C'est d'ailleurs peut-être le but de l'opération. Le député Guillaume Chiche soit essaie de faire parler de lui par tous les moyens, soit est en service commandé dans le rôle d'un thermomètre pour tester au cœur de l'été et sans que ça ait pour le moment beaucoup d'incidence le degré d'irritabilité de l'opposition et de la Manif pour tous sur ces questions.
Stéphane Robert, merci. L'actualité parlementaire, c'est aussi ce rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Lactalis. Une trentaine de nourrissons contaminés à la salmonelle après avoir consommé du lait infantile du géant laitier. L'affaire avait mis en évidence un certain nombre de lacunes, tant au niveau de la production du lait infantile que de sa distribution. Hélène Fromanti, bonsoir.
Bonsoir.
La commission d'enquête parlementaire propose notamment la création d'un service unifié qui s'apparenterait à une sorte de police alimentaire.
Oui, car actuellement, en matière de sécurité alimentaire, 3 administrations distinctes sont aux manettes. Une répartition complexe et peu efficace en bout de course. Grégory Besson-Moreau est le rapporteur de la commission d'enquête. Il prend l'exemple du lait infantile.
Lorsque le lait est à l'état naturel et liquide, c'est sous le contrôle du ministère de l'Agriculture, donc de la Direction Générale de l'Alimentation. Lorsqu'il est transformé en poudre, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. Et s'il y a un problème sanitaire, c'est le ministère de la Santé. Moi, je pense qu'il faut éviter ce que l'on appelle vulgairement les trous dans la raquette.
Le rapport préconise donc de transférer toutes ces compétences à la Direction Générale de l'Alimentation, la DGAL, qui dépend du ministère de l'Agriculture. Une pilule pas facile à faire avaler à tous les fonctionnaires, mais essentiel, selon le président de la commission, Christian Hutin.
Tous les ministères ont envie de garder leur précaré. Mais il est bien évident que quand ça touche à la sécurité alimentaire, c'est la DGAL qui doit s'en occuper. On n'est pas dans un problème de douane.
Pour plus d'efficacité, les moyens de cette police alimentaire vont aussi être renforcés. L'État va piocher à 100% dans la nouvelle redevance européenne sur le chiffre d'affaires des industriels. 270 millions d'euros pour notamment créer 800 emplois. Des agents qui feront des contrôles officiels dans tous les maillons de la chaîne alimentaire. Une tâche que les parlementaires refusent catégoriquement de déléguer à des organismes privés.
Hélène Fromanti, merci. Dans l'actualité judiciaire, le tribunal administratif de Paris a rejeté aujourd'hui le recours introduit par une trentaine de victimes de l'attentat du Bataclan. Victimes ou proches des victimes qui demandaient au tribunal de constater les défaillances de l'État dans sa réponse à l'attaque djihadiste du 13 novembre 2015 à Paris. Au cœur de la procédure, il y avait le fait que des soldats de l'opération Sentinelle présents ce soir-là aux abords du Bataclan n'avaient pas reçu l'ordre d'intervenir. Florence Thion, bonsoir.
Bonsoir.
Le tribunal a estimé qu'en l'espèce, la responsabilité de l'État n'était pas engagé.
Oui, le 13 novembre n'était pas une fatalité, avait asséné Samia Maktouf, l'avocate des plaignantes à l'audience du 4 juillet dernier. Elle avait ciblé à la fois les dysfonctionnements des services de renseignement à détecter les djihadistes fichés S, mais aussi la non-intervention des soldats de la force Sentinelle au Bataclan. Les plaignants estiment l'État responsable d'un préjudice lié à la perte de chance d'éviter l'attentat et les familles réclamaient chacune une indemnisation de 20 000 euros. Pour le tribunal administratif. La question était donc d'apprécier si l'administration avait ou non commis une faute lourde et il répond non en suivant les arguments du rapporteur public. La loi est claire, le militaire ne peut intervenir sur le sol français pour des actes de maintien de l'ordre, il n'est autorisé qu'à faire des missions de surveillance. Quant à la perte de chance d'éviter les attentats, le tribunal a pris en compte les difficultés particulières et les moyens limités dont disposaient alors les services de renseignement. Il n'a pas été établi qu'ils avaient pu être informé par les services étrangers d'un projet d'attentat contre le Bataclan. Aucune faute, conclut le tribunal, ne peut donc être imputée pour ne pas avoir mis en œuvre un dispositif de sécurité particulier autour de la salle. Derrière ce débat et cette décision, il y a bien sûr toute la difficulté, la complexité à évaluer une situation et un drame a posteriori, au-delà de la douleur et de l'incompréhension des victimes. Ces familles ont par ailleurs déposé plainte au pénal pour non-assistance à personne en péril, précisément sur la non-intervention des soldats de la force Sentinelle. Une plainte toujours à l'étude actuellement.
Florence Thurme, merci. On va terminer ce journal avec cette polémique grandissante autour de la victoire de l'équipe de France au Mondial de football. Aux États-Unis, l'éditorialiste métis Trevor Noah a salué dans son émission de télévision sa fierté de voir une équipe africaine devenir championne du monde. Hier à Johannesburg, dans son hommage à Nelson Mandela, Barack Obama avait aussi évoqué la victoire des Bleus. Des mecs qui ne sont pas tous gaulois mais qui sont français, avait martelé l'ancien président américain. Les joueurs de l'équipe de France, eux, refusent absolument d'être renvoyés à leurs origines. La preuve avec ce tweet du défenseur Benjamin Mendy, où à chaque joueur correspond un petit drapeau tricolore. On va écouter l'analyse d'un journaliste américain, Scott Sayer, correspondant en France de plusieurs magazines comme GQ ou Harper's Magazine. Pour lui, il y a dans ce débat deux conceptions identitaires qui s'affrontent, la française et l'américaine.
Aux États-Unis, on a une tradition des 50 dernières années par rapport aux Noirs américains de réappropriation en gros des stigmates, une sorte de fierté que de parler de son appartenance ethnique, raciale. C'est beaucoup plus consensuel aux États-Unis de parler de sa fierté noire que ça ne serait en France. Je pense que ce n'est pas l'approche philosophique française dominante. Ceux qui parlent de la composition de l'équipe de France, que ce soit en 98 ou aujourd'hui, aux États-Unis, c'est la gauche progressiste, disons, qui trouve ça très chouette de voir toutes les origines différentes et aussi de voir des histoires personnelles des mecs qui ont des histoires dures parfois et qui néanmoins réussissent. Ça correspond au rêve américain et donc ça plaît aux États-Unis. Et en France, c'est la droite. Et la droite dure, nationaliste, surtout, qui parle de l'équipe de France et sa composition. S'il y a une obsession identitaire aux États-Unis, c'est clairement à gauche. S'il y a une obsession identitaire en France, c'est clairement à droite. Aux États-Unis, on trouve ça très chouette que ce soit une équipe Black Bomber. Et en France, c'est plutôt le contraire. Je sais qu'il y a une courte période, une sorte de tentative de fierté autour de la composition de l'équipe en 98. Je pense pas que ça représente la pensée dominante en France aujourd'hui. Le côté Black Bomber plaît aux États-Unis très clairement. Ça résonne avec un récit, enfin une mythologie américaine, beaucoup plus que ça ne résonne avec une mythologie française.
Le journaliste américain Scott Sayer, il répondait à Bastien Roch. On termine avec le temps demain, toujours chaud et lourd. Le soleil s'imposera sur la majeure partie du territoire, mais des orages se développeront du sud-ouest à la Normandie. Température minimale de 13 à 22 degrés. Pour les maximales, comptez de 20 à 33 degrés du nord-ouest au sud-est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.